Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. Je rappelle que Burnout est enregistré à la maison KissKiss, l'espace de la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank, dont un des piliers la lutte contre toute forme de discrimination. Comme d'habitude, s'il vous plaît, on s'abonne à la page Burnout sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos écoutes, la fidélité des auditeurs. Ça me fait plaisir, hein. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute Burnout. Et ça me touche, tout simplement. Pour ce nouvel épisode de Burnout, je reçois un invité qui représente comme personne la diversité. Français par sa mère et marocain par son père, il est né et a grandi à Paris. Il vient d'être diplômé et nous partage au quotidien sur ses réseaux la quête de son identité. Et il est là pour nous en parler. Sinan, le petit marocain, bienvenue sur Burnout.
Merci Mehdi, c'est un immense plaisir. Je suis honoré, un peu impressionné.
Impressionné, pourquoi ?
C'est la première fois que je suis invité sur un podcast, en plus le tien, Burnout. Ouais. Avec tout le matériel qui va avec, je suis un peu impressionné.
Ah bah c'est cool, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, parce que c'est vrai que tu vis au Maroc, tu vas tout nous raconter, et tu as un agenda assez chargé, tu dois voir la famille, etc. Et puis tu as trouvé un moment pour venir au micro de Burnout, donc ça me fait plaisir, d'autant plus que, alors ça il faut que je le dise aux auditeurs, parce qu'à chaque invité de Burnout, il y a une anecdote.
Exactement.
Il y a une anecdote de rencontre. Est-ce que je peux expliquer aux auditeurs ?
Explique, parce que c'est
gros,
magnifique.
En gros, je pense que tu m'as contacté l'année dernière, uh-huh, dans le cadre de ton mémoire de fin d'études, pour me demander si tu pouvais citer Burnout dans tes sources, dans le cadre d'un épisode, uh-huh, où j'avais reçu Nesrine Slaoui.
Exactement.
Faiza Gen, je ne sais plus.
Les deux.
Et moi, je me suis dit, mais non, c'est une blague. Burnout qui va être pris en référence dans un mémoire de Master 2, c'est pas possible. Et je t'ai dit, mais bien évidemment. Et uh-huh, franchement, ça, tu vois, je m'en souviens très bien. Ça m'a touché. Uh-huh. Et ensuite, tu es venu m'aider sur l'enregistrement d'un des épisodes. Et c'est comme ça qu'on a accroché et qu'on est resté en contact.
Exactement. Et quelques mois, six mois après, je suis là derrière ton micro, alors qu'avant j'étais derrière la caméra. Enfin, c'est trop beau.
C'est fou. Alors, Sinan, tu sais, comme le veut la tradition de Burnout, on aime parler de l'enfance de nos invités. Est-ce que toi, tu te rappelles à quoi t'aspirais quand tu étais au collège ou en primaire, c'est-à-dire l'année dernière ? Non, je rigole. Parce que tu es tout jeune encore. Mais est-ce que tu savais exactement quel métier tu voulais faire ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. Pas du tout, j'avais pas d'idée de métier. Après, quand j'étais petit, je me rappelle que je voulais être footballeur.
Ok. Comme beaucoup
et comme Zidane. Ouais. Parce que moi, je m'appelle Sinan. Et en fait, à chaque fois, je pensais à Zidane et je disais Zinedine Sinan. Ah. Et pour moi, c'était la révélation, quoi. C'était ma destinée, du coup. Mais à part ça, non, pas de rêve particulier du style je veux faire ci, je veux faire ça.
Ingénieur, plombier.
Architecte, évidemment.
D'accord.
Parce qu'en fait, je m'appelle Sinan.
Oui.
Et Sinan, en fait, c'était le plus grand architecte de l'Empire Ottoman. Mmh. Et il a construit, par exemple, la mosquée bleue à Istanbul. Et c'est de là d'où vient mon prénom.
D'accord.
Et du coup, moi, j'adorais jouer au Kapla.
Ok.
Et quand je montais des Kaplas, à un moment, j'ai entendu mes parents dire ouais, bah, Sinan, il va devenir comme Sinan, l'architecte. Mmh. Et moi, je me suis dit, mais. Je trouve que c'est ma voix aussi.
Et c'est rare pour des familles françaises ou marocaines ou du Maghreb d'avoir des prénoms de Turquie ou d'Empire ottoman. Uh-huh. Il y a une explication, ouais, derrière. Ils se sont rencontrés là-bas, tes parents?
Alors, il y a une histoire derrière, mais oui, c'est vrai que c'est rare parce que moi, j'ai rencontré aucun Sinan au Maroc de ma vie. Et en France, j'en ai rencontré un seul, mais un seul dans mes 23 ans d'existence. Et lui aussi, c'était la première fois qu'il rencontrait un Sinan. Il était vendeur au KFC. Il était tellement surpris qu'il m'a offert le plat, le dessert,
ah ouais,
à moi et mon pote.
Les chicken wings.
Tellement c'est une révélation, quoi. Tellement les Sinan, il y en a peu. Et surtout quand on n'est pas turc. Et en fait, mes parents, avant d'avoir des enfants, ils sont allés en Turquie. Ils ont visité la ville, ils ont visité Istanbul. Et en sortant de la mosquée bleue, mosquée construite par Sinan,
d'accord,
ils se sont dit, bon, bah, quand on aura un fils, on l'appellera Sinan.
Ok, bah, très belle histoire.
Magnifique
Merci
histoire.
De l'avoir partagée. Est-ce que, Sinan, tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment t'en es venu à ressentir autant le besoin de découvrir ton identité marocaine ?
Bah alors moi, je vais au Maroc depuis que je suis tout petit.
Okay.
Donc tous les étés, tous les deux ans, on va au Maroc, un mois, à Saïdia, pour des magnifiques vacances. Et depuis que j'y vais, à chaque fois, je suis confronté au même problème. Je ne peux pas parler avec ma famille, très peu. Je me sens étranger là-bas, etc., etc. Et moi, alors que j'aime beaucoup le Maroc, et j'aimais déjà beaucoup le Maroc, et en fait, je me suis dit, mais si je veux vivre ma relation avec le Maroc, à un moment, il va falloir arrêter d'être un étranger chez soi Et il va falloir prendre les chances de moment. Et du coup, j'avais toujours eu cette idée de un jour, j'irai habiter au Maroc. Ça, ouais. C'est sûr. Parce que j'en ai marre, en fait, d'être à l'étranger chez moi.
Okay.
Et voilà, mais j'avais ça dans un coin de la tête et c'était pas pressé. J'avais aucun empressement pour y aller. Et en fait, là, j'avais commencé mes études supérieures et je savais qu'à la fin de mes études, j'allais partir. J'allais partir à l'étranger pour changer d'air, pour changer de la mentalité française un peu, du style faire des études, après faire le boulot, et faire les études, c'est les meilleures études, sinon t'es une merde, des choses comme ça. Et je voulais juste un espace pour respirer, ouais. Me perdre et vivre. Et à la base, c'était l'Amérique latine. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait un mémoire sur la construction identitaire des Français d'origine africaine et le rôle des marques de mode dans cette construction.
Okay.
Et en fait, toute l'année, ça m'a fait penser à moi. C'est-à-dire que j'étais en train de charmer de mon mémoire et j'avais des images, tu vois, genre moi, sur une dune, au Maroc, les yeux sur l'horizon. Et tu sais, c'était des images, mais qui me... En fait, ça me faisait rêver. Du coup, la flamme que j'avais pour « Ok, tu devrais partir au Maroc », bah, en fait, elle s'est ravivée. Et je me suis dit, mais en fait, tu veux partir pour kiffer ta vie, bah, t'as qu'à le faire en apprenant l'arabe au Maroc. C'est et fou, du coup, je me suis dit, mais bah ouais, pars. C'est ça la réponse, quoi.
Bon, on va y revenir. Est-ce que mais ton père, par rapport à ça, quand tu lui as dit, écoute, papa, j'ai envie d'aller au Maroc, ton père, il est né au Maroc ou en France?
Il est né en Algérie.
Attends, pause. C'est l'invité le moins clair. Donc, attends, tu peux nous expliquer pourquoi tu parles d'être franco-marocain? Ton père est né en Algérie, c'est ça?
C'est ça. Alors, mon père est marocain.
D'accord.
Il est uniquement. Enfin, il est franco-marocain. Maintenant, il est devenu franco-marocain.
Okay.
depuis des années, mais il est marocain.
D'accord.
C'est-à-dire que même s'il est né en Algérie, qu'il a grandi en Algérie, il a toujours eu les papiers marocains et pas les papiers algériens.
Ok.
Et mon grand-père aussi, du côté paternel, est né en Algérie et a grandi en Algérie.
Ok.
Mais ils ont toujours été marocains et pas algériens. Pourquoi ? Ça, c'est encore un mystère dans lequel j'ai quelques réponses, mais c'est aussi parce que c'était une époque où c'était la colonisation française. Donc l'Algérie n'était pas l'Algérie, c'était la France. Et du coup, mon père, il est né en France, en fait. Donc ce qui fait qu'il y a plein de questions relatives à ça qui s'imposent. Ouais. Moi, en fait, je viens de Saïdia Oujda. Et en fait, il y a beaucoup à Oujda de Marocains qui sont aussi Algériens.
Okay.
Et du coup, bah, je viens de là.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément toute la géographie entre l'Algérie et le Maroc, c'est les villes que tu cites, c'est à la frontière.
Exactement.
Donc, c'est entre Maroc et Algérie.
Exactement. Et voilà, du coup, j'ai aussi ce côté algérien. Et sur le pourquoi du comment mon père a les papiers marocains et pas algériens, etc., c'est des questions que je vais...
Okay. Bon, on va laisser ça du côté administratif. De toute façon, ça ne change pas l'objet de ma question.
C'est ça.
Quand tu as exprimé ce choix à ton père, dire bah, écoute, moi, après mes études, j'ai envie d'aller au Maroc.
Uh-huh.
Est-ce qu'il te disait non, mais mon fils, c'est bon, reste tranquille, ou ouais, ouais, t'inquiète. Ou il te disait non, mais c'est bien, je serai derrière toi.
Uh-huh. Alors, il ne me disait pas je serai derrière toi. En fait, mon père c'est quelqu'un, c'est comme un papa poule.
Okay.
C'est-à-dire qu'il n'aime pas que ses enfants soient loin de lui. Et donc moi, avant moi, il y avait ma grande sœur qui voulait faire un tour du monde. Dès le début, il était contre, tu vois. Donc en fait, il ne m'a pas particulièrement motivé à le faire, même si je pense que dans sa tête, il était content que je le fasse. Et c'est ma mère qui m'encourageait. Elle me disait, ouais, c'est une très bonne idée, vas-y, vas-y. Et maintenant, bien que mon père ne m'ait pas encouragé, mais à aucun moment, il m'a découragé de le faire. Hein. Vraiment, il était juste content pour moi, mais passivement. Bah, maintenant, je vois qu'il est très fier et c'est ça qui compte.
Tu vas être plus marocain que lui, finalement.
Mais tu sais que c'est marrant parce que je commence déjà à remarquer des différences.
Ouais.
Genre, par exemple, la dernière fois qu'ils sont venus, il y a un mois, ils sont venus en vacances, toute ma famille, au Maroc. Et c'était moi, le guide.
Bah, tu vois, comme quoi.
Et ça, mais c'est quelque chose d'assez ouf parce que moi, je n'ai jamais vécu. Et je pense, comme beaucoup de fils d'immigrés, je n'ai jamais vécu mon pays d'origine en étant le premier à mener la marche dans la famille, tu vois. C'était toujours derrière le père parce que
je suivais et puis basta.
Je suivais. Et là, c'était moi, le guide. Moi, le Marocain.
Comme quoi.
Comme quoi.
Quels ont été tes premiers pas dans ta quête d'identité marocaine?
Alors, mes premiers pas à partir de...
Tes premiers pas, c'est-à-dire les différentes étapes, pardon, de ta quête...
Cette année, avant de partir au Maroc ou depuis que je suis tout petit, etc.
Non, avant de partir.
Avant de partir. Alors, du coup, au milieu de l'année, juste avant mon départ, donc un an avant mon départ, c'est au milieu de l'année que j'ai commencé à me dire, OK, finalement, ça ne sera pas l'Amérique latine, ça sera le Maroc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je ne suis pas prêt.
Okay.
Mentalement, en fait. En fait, il faut que je me prépare, tu vois, à aller dans mon pays d'origine. Ce qui n'est pas comme aller faire sa vie ailleurs, dans un autre pays où tu es totalement inconnu. Là, tu vas dans un pays qui est le tien, mais qui n'est pas forcément le tien, en fait.
C'est là tout le paradoxe. Hein.
Exactement, exactement. Et je sais que j'appréhendais beaucoup, j'appréhendais énormément, et je me suis dit, OK, fais un décollage en douceur. Donc, depuis Paris, je me suis rapproché du Maroc. Donc, ce qui fait que, même au niveau de mes playlists, j'avais des playlists pour les meilleurs jeux d'épaule, au niveau des événements, j'allais à beaucoup d'événements qui parlaient des cultures arabes, des cultures marocaines, etc., etc. Et c'est en fait ça qui m'a fait me rapprocher du Maroc. Et aussi, j'ai fait un truc qui a été primordial pour moi, c'est que j'ai pas pris l'avion pour aller à Marrakech, parce que pour moi, c'était inconcevable de faire Paris-Marrakech en 2 heures et comme ça, changer de vie.
Ouais, aussi brusquement.
Aussi brusquement. C'était une claque que j'étais pas prêt à prendre.
Okay.
Donc en fait, j'ai pris le train et le bateau. Déjà, parce que ça me faisait penser à nos voyages d'enfance, quand on prenait la voiture pour aller au Maroc.
Ah, donc, ça, c'est sûr.
Il y a ce côté nostalgique qui me mettait des étoiles dans les yeux. Ouais. Mais il y a aussi ce côté où c'était un moment nécessaire pour réfléchir à tout ça.
D'accord.
Réfléchir à tout ça, être tout seul, poser dans le train, regarder les nuages et voilà, se dire c'est bon, j'y vais, quoi.
C'est beau, c'est Sinan le petit Marocain, mais le petit rêveur aussi.
Ah, totalement, totalement.
Et c'était quoi tes attentes, toi, avant d'arriver là-bas? Est-ce que tu les as un peu finalement fantasmées, mm-hmm. ou pas du tout?
Alors moi, en fait, avant mon départ, j'avais peur.
D'accord.
J'avais peur.
Ce qui est normal.
Ce qui est normal, mais par exemple, je suis déjà parti habiter en Irlande 1 an.
Ok.
Du jour au lendemain, voilà, j'étais en Irlande, ma vie, je continuais. Ouais. Et
c'est quoi, c'est les Arabes qui te faisaient peur au Maroc?
Trop d'Arabes, il y a trop d'Arabes. Non, c'est le fait que bah voilà, je vais dans mon pays d'origine.
Ouais.
Et en fait,
il y avait une symbolique.
C'est ça. Et en fait, moi, j'avais peur que, alors que je voulais passer l'année là-bas, finalement, que avant 2024. Je me retrouve là-bas et que je me dise, bah ouais, non, finalement, j'aime pas le Maroc.
Ah,
j'aime pas, okay. Le Maroc. Je matche pas avec les Marocains. On n'a pas la même culture. C'est pas mon pays. Et en fait, j'avais vraiment peur d'y aller et de réaliser que finalement, c'était pas pour moi.
D'être déçu, finalement.
Bah, en fait, c'est pas une question d'être déçu, parce que ça serait juste de réaliser que moi, je me sens pas bien là-bas.
Okay.
C'est pas comme une déception, parce que le Maroc restera le beau pays qu'il est, et ouais, que bah j'adorais avec les vacances d'été, et que je pourrais continuer à aimer comme ça, mais ça veut dire que si je veux creuser la relation avec, non, finalement c'est pas possible, parce que on pourra pas se marier. Ouais. Et ça me faisait vraiment peur. Du coup, finalement, quand je suis arrivé, c'est cette peur qui s'est dissipée avec la réalité du Maroc d'aujourd'hui.
Okay.
Et donc mes attentes, en fait, elles ont été, du coup, mes appréhensions surtout, elles ont été toutes effacées les unes après les autres. Et je réalisais que, au Maroc, je peux être profondément heureux en retrouvant tout le confort que moi, parisien, parce que je viens de Paris quand même, Paris, ouais, capitale de la culture, nanana.
Savoir-faire à la française.
Et... Exactement. Enfin, Paris, c'est un bijou, à toutes les échelles.
Pour moi, c'est la plus belle ville au monde.
Et je dis pareil, je le dis vraiment, c'est... Quand t'es parisien, mais franchement, c'est difficile même de retrouver son bonheur dans une autre ville. Ouais. Tellement t'es habitué à faire une balade de 30 minutes, à passer devant des monuments convoités dans le monde entier.
C'est magnifique, tu manges bien, les gens sont bien sapés. Franchement,
exactement, alors, ça aussi, c'est un petit truc.
Ça va surprendre les auditeurs, c'est vrai qu'on a tendance à penser que je suis pas bien en France parce que je partage des sujets parfois clivants. Alors pas du tout. Oui, c'est compliqué, effectivement, mais j'adore la France et j'adore Paris. Faut pas, voilà, je préfère le préciser. Et c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées en allant vivre au Maroc, sachant que tu parlais ni la langue, et sachant que tu ne connaissais pas le pays? Est-ce que c'était quoi les difficultés des premières semaines, des premiers mois?
Alors en fait, je connaissais bien le pays parce que j'étais allé au moins une dizaine de fois.
Ok.
Donc je connaissais bien le pays, mais finalement, je connaissais bien Saïdia.
Oui, voilà. Alors que toi, t'as atterri à Marrakech. Enfin, voilà. T'es arrivé en train.
Exactement. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est un petit piège de quand on est issu de l'immigration, c'est qu'on connaît bien notre ville du Maroc.
C'est ça.
Mais peut-être qu'on visite pas assez le Maroc. Mais en l'occurrence, moi, j'avais déjà fait 2-3 voyages avec ma famille du Maroc. Donc voilà, je connaissais un petit peu.
Mais ça, c'est un peu symptomatique des enfants d'immigrés, parce que généralement, quand on allait au Maroc, c'était pas en vacances, c'était pour pour retrouver la famille.
La famille de, on va chez la tante.
Chez la tante, chez les grands-parents, etc. Ou même chez nous, parce que nos parents ont investi dans une maison ou un appartement là-bas. Mais nos parents n'avaient pas le mindset de « Ah ben, on vient au Maroc, on va faire visiter le Maroc à nos pays. » Non, c'était inconcevable. Pardon. Ils étaient là justement pour retrouver leurs racines et l'endroit où ils avaient grandi et puis retrouver la famille.
Du coup, j'avais quand même cette base du lien avec le pays. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me permettait d'être déjà dans le bain avec la culture, etc. Mais après, ouais, les difficultés, c'est que, en fait, moi, j'étais accueilli d'abord chez ma tante Hajamina, qui est de la famille. Et en gros, elle habite seule et moi, je ne parle pas la langue. C'est-à-dire qu'elle m'attend à la gare. Et moi, j'appréhendais énormément cette rencontre, tu vois. Et du coup, je m'étais noté des mots, etc., etc.
Choukran, salam alaikum.
Mais vraiment, mais c'était ça. J'avais peut-être 30 mots, mais incohérents, ils vont pas les uns derrière les autres, tu vois.
Okay.
Et du coup, j'appréhendais ça. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, t'es prêt. T'as révisé, tu peux faire 15 minutes de conversation. Et en fait, le truc, c'est que je suis arrivé, je l'ai vu, on s'est fait un grand câlin. Mais en fait, on s'est dit bonjour et j'avais plus rien à dire.
Oh, ah ouais.
Et je suis arrivé genre à 12h et après à 13h, on était chez elle, on mangeait, elle et moi. Et le repas, il était silencieux. C'est-à-dire qu'elle m'avait servi un magnifique plat, etc. Et moi, je lui disais « Ah, choukran bzef, ah, mzian, hada, mzian, délicieux. » Et je disais tous les prénoms de la famille, genre de mes oncles, etc. Et je disais « Soufiane Mziane » et « Couscous Mziane ». Je disais que « Mziane ». Et « Mziane », je l'ai dit peut-être 100 fois. Et en fait, je me suis dit…
« Mziane », ça veut dire « c'est bon hein, » pour les auditeurs.
Exactement, exactement.
Ils ne comprennent pas l'arabe.
Merci pour la traduction. Et en fait, ça m'a mis une grosse claque, en fait.
Aïe, aïe, aïe.
Parce que moi, j'étais là avec petit rêveur, etc. Je vais aller habiter au Maroc, je ne parle pas la langue, je vais apprendre sur le tas, etc. J'ai mis le pied à Marrakech. J'étais chez ma tante. Et là, je me suis dit, OK, en fait, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout.
Ouais.
Parce que c'était une grosse claque.
Et à quel moment t'as décidé d'en faire un peu un vlog? Tu sais, c'est le mot à la mode. Et d'apporter ton ADN, que j'aime beaucoup, parce que là, t'en parles, c'est y a beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup d'humour aussi. Moi, cette rencontre à la gare, lorsque tu te retrouves en tête-à-tête avec ta tante, je l'ai vu sur tes stories. Tu vois, ça me revient, tout ton parcours me revient d'un coup, mais j'étais mort de rire. Franchement, c'était très drôle. Est-ce que tu l'as intellectualisé, ou tu t'es dit, en fait, je vais filmer, et puis on verra ce que ça donne.
Alors moi, en fait, c'est mon année sabbatique.
Ouais.
Ça veut dire que au quotidien, je fais quoi? J'ai du temps libre. Et en fait, moi, j'aime bien parler. Et ça, c'est une histoire qui est personnelle et une histoire qui me fait vibrer. Et en fait, en parler, c'est hyper naturel pour moi. Et du coup, j'ai voulu en parler. En fait, dès que même mes études, tu vois, j'en parlais. Je faisais des petites vidéos pour parler de mes études. Du coup, en fait, c'est naturel pour moi de parler de choses qui m'intéressent. Et en fait, comme je sais que c'est une histoire dans laquelle on est énormément à se reconnaître, ça me faisait encore plus plaisir de le partager.
On a l'impression que tu as fait ça toute ta vie.
Ouais.
Ouais. Franchement, bravo.
C'est de la communication, c'est parler. Oui. Donc, si tu aimes bien parler, les réseaux sociaux, c'est juste une extension de la parole en public, quoi.
C'est beau. Bon, revenons à ta quête d'identité et surtout au Maroc. Quels aspects de la culture marocaine, toi, tu as trouvé les plus enrichissants ou surprenants? Parce que, encore une fois, je te pose la question et tu peux me répondre, en fait, je connaissais déjà le Maroc, mais à nouveau, y vivre vraiment et être un local versus venir l'été 3 semaines ou 1 mois, c'est pas la même chose.
Exactement. Non, mais t'as dit deux choses hyper intéressantes. C'est sur le « je connaissais le Maroc » et la première, c'était « qu'est-ce que j'ai découvert ?»
Ouais.
En fait, moi, il y a un truc que j'adore, c'est que quand je suis au Maroc… Des fois, ça me fait rire de voir à quel point je réfléchis à la française et j'ai des rêves tellement françaises pour expliquer mon quotidien. C'est-à-dire, tu vois, dans Astérix et Obélix, il y a Obélix qui dit, quand il parle des Romains, il dit « mais ils sont fous ces Romains
ouais. ».
Et moi, je te jure, moi qui suis franco-marocain, je suis au Maroc et je vois les choses et je me dis « mais ils sont fous ces Marocains ». Tellement avec ma culture française, alors que je suis franco-marocain, faire ces choses à la marocaine, en fait, je me dis « mais c'est trop beau, quoi, pourquoi ?» Comment ça se fait qu'ils réagissent comme ça, tu vois? Et par exemple, c'est l'hospitalité.
Okay.
Donc moi, je vais au Maroc depuis que je suis tout petit, mais maintenant que j'y habite, je réalise à quel point la culture marocaine... En fait, pour moi, aller, habiter au Maroc ou s'imprégner de la culture marocaine, c'est devenir un humain meilleur. Zéro prétention. Tu vas au Maroc, je te jure, tu prends des leçons de vie, d'humanité. Et en fait, moi, il y a des choses qui m'impressionnent au quotidien, tu vois, la manière dont tu es accueilli, à chaque fois, tu es servi comme un roi, la manière dont, enfin, tu vois, on entend l'expression, il a toujours la porte ouverte. Au Maroc, c'est physique, la porte de la maison est ouverte.
C'est pas une métaphore.
Ouais. C'est pas une métaphore. Et moi, depuis que je suis tout petit, tu vois, mes voisins d'enfance, ils ont toujours la porte ouverte et je rentre, je dis même pas salam, je m'assieds, je mange avec eux, tu vois. Donc c'est ça, c'est cette richesse, cette humanité et sur le fait que je connais le Maroc, bah finalement, maintenant que j'y habite, je réalise à quel point je le connaissais pas. Je dis connaissais parce que maintenant bah, je vis dedans. Mais le Maroc d'aujourd'hui, il ressemble pas du tout au Maroc de mes vacances d'été. Mais sur aucun point. Et en fait, c'est ça, c'est le Maroc d'aujourd'hui que je découvre et qui m'étonne au quotidien. Au quotidien. Que ce soit à la fois au niveau du tourisme, quand je fais des voyages et par exemple, moi, j'habite à Marrakech. Avant, j'habitais à Saïdia. Saïdia, c'est balnéaire. Il y a la plage, il y a la piscine. Et voilà. Mais Marrakech, tu as l'Ourika à côté. L'Ourika, il faut savoir que c'est des rivières avec des montagnes, etc. Putain,
c'est magnifique.
Tu as les montagnes de l'Atlas. Et en fait, à un moment, je suis allé j'ai suivi une route dans l'Ourika et j'étais dans la région de Marrakech, au cœur de la région de Marrakech. J'ai l'impression que j'étais en Suisse. Et ça, c'est tellement je suis encore étranger à ces paysages. Bah voilà, ça me met des étoiles dans les yeux au quotidien.
C'est beau. Et hormis l'aspect linguistique, c'est quoi les autres défis ou obstacles que tu as rencontrés? Parce que là, on a l'impression que tu vis un conte de fées, que ça a été super simple, que tu as connu zéro galère. Est-ce que, je ne sais pas moi, la logistique, la paperasse pour trouver un appartement, pour manger, j'en sais rien, mais...
Bah, en fait, la difficulté majeure, elle venait du fait que moi, au Maroc, du coup... À Marrakech, je connaissais qu'une seule personne, c'était Ajamina, qui a une grand-mère marocaine. Et donc, je suis parti avec un sac à dos, une valise, et voilà. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là-bas, je connaissais personne, à part ma tante. Et au quotidien, j'étais libre, donc c'était à moi de tout construire, en fait. Et je suis dans une ville que je connais pas, etc., etc. Et en fait, le plus grand défi, ça a été la socialisation. Comment tu rencontres des gens, etc. Comment tu t'imprègnes de la vraie vie marocaine, etc. Et ça, bah, du coup, finalement, la socialisation, c'est un problème que j'ai résolu en allant à mes cours d'arabe, en m'inscrivant à des séances de sport, etc. etc. Aussi parce que dès mon premier jour, après la petite claque de réalité que j'ai eue en voyant que je ne pouvais pas parler avec ma tante, c'est que j'ai des cousines. Qui sont venues à la maison parce qu'elles savaient que j'étais là et elles parlaient français. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens, de rencontrer ma famille parce que c'est un côté de la famille aussi que je connais pas.
Ouais.
Et donc, en fait, je rencontre aussi ma famille. Et voilà, du coup, ça a été un bon levier, on va dire, pour m'enlever cet obstacle de se sentir seul, etc. etc. Mais par exemple, moi, du coup, juste avant de partir, parce que comme la vie est bien faite, j'ai rencontré des amis qui étaient marocains de Marrakech et du coup comme ils savaient que j'étais au Maroc, ils essayaient de me brancher avec leurs potes. Mais c'est là où aussi les différences culturelles elles gênent un peu parfois les choses. Et par exemple la ponctualité ou le fait de se présenter au rendez-vous, ça peut causer problème parce que moi, alors que j'étais tout seul, j'avais pas d'amis, que je me sentais seul, etc., etc. Du coup mes potes ils me branchaient avec les leurs, donc je les contactais, ouais, on se donne rendez-vous ici, nanana. Et après, j'ai plus de nouvelles. Enfin, on dit oui. Et après, le jour J, j'ai plus de nouvelles. Après, je relance. Pas de nouvelles, rien. Et en fait, mais plusieurs fois, je me suis pris des vents comme ça. Et je me suis dit, mais est-ce que les Marocains sont tous comme ça ou... Et du coup, y a ces trucs, des fois, parfois, culturels de ponctualité ou quoi, qui, des fois, te disent... Ok, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'ils ne voulaient pas me capter?
À la base, c'est normal. Et moi, je suis tellement un psychopathe de la ponctualité que ça peut être tellement frustrant pour moi. Et limite, je peux en souffrir.
Mais...
Et moi, quand je vais au Maroc, je prévois, quand je donne un rendez-vous à quelqu'un, genre, je lui dis 15h, mais en fait, je sais qu'il va arriver à 17h. Et c'est normal. Je me dis, en fait, c'est à moi de m'adapter.
Exactement.
Je ne vais pas aller changer un mindset à une rigueur psychorigide à l'européenne ou à la française.
Exactement.
Ça ne sert à rien. C'est comme conduire. Là-bas, c'est un peu à l'arrache. On est tous d'accord. Ça sert à quoi de les changer? C'est à moi de m'adapter à leur conduite, sinon tu fais un accident.
Exactement. Exactement. Et ce côté-là, je ne vais pas les changer. Moi, du coup, comme j'ai dit, le Maroc, ça nous apprend des leçons de vie. Oui. Et tu vois, toi comme moi, peut-être mentalité française, on aime bien que ça soit cadré, etc. etc. C'est bien, mais aussi ça nous impose une pression. Mais du coup, se nourrir de la mentalité marocaine, ça t'apprend aussi à lâcher prise, tu vois.
Être plus flexible.
Exactement. Ouais. Et accepter. Et ça, c'est fi al-khir, qui veut dire que voilà, derrière chaque imprévu, il y a du bon. Et voilà, se nourrir de ça, c'est aussi... Bah, devenir un meilleur humain, tu vois.
Ah là là. Ce que j'aime aussi chez toi, Sinan, le petit Marocain, c'est une facette, c'est l'image que tu as véhiculée, que tu véhicules encore aujourd'hui sur tes réseaux, à travers ton expérience et ton quotidien, d'un Maroc que je ne connaissais pas forcément. Mmh. Et moi, alors je te dis tout. Ma crainte, quand tu m'as dit que tu voulais partir au Maroc, je me suis dit, bah, en fait, il va à Marrakech. C'est la ville touristique. Il y a beaucoup de Français. Naturellement, ben, il va être qu'avec des Français. Ça va être simple. C'est une ville touristique. Il va aller dans les soirées, etc. Et en fait, quand j'ai vu ces réseaux sociaux, ben, j'ai ressenti de la fierté. Quand j'ai suivi ton parcours et que je suis encore tous les jours, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ouf parce que tu as mis en valeur un Maroc populaire que je ne connaissais pas. Avec beaucoup d'artistes, que ce soit à travers de la chanson, des associations, de la danse beaucoup. Et pas élitiste. Mmh. Alors, je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans tout ce que tu as partagé. Et je me suis dit, bah, en fait, Marrakech, ce n'est pas que Jamel Fna, ce n'est pas que le Sofitel, je ne sais pas ce... je sais pas quoi. Il y a une vraie population locale, il y a une vraie ADN, il y a une vraie culture, et il y a une vraie culture populaire, surtout.
C'est ça. En fait, pour moi, il y a trois Marocs qui sont connus. Il y a le Maroc couscous chameau, désert. Il y a le Maroc, Marrakech, jet set, boîte de nuit. Et pour les franco-maghrébins, il y a le bled. Mais le Maroc d'aujourd'hui, c'est ces trois Marocs. Dans le Maroc d'aujourd'hui, c'est qu'une partie infime du Maroc d'aujourd'hui. Et en fait, bah moi, c'est ce que je découvre au quotidien depuis que je suis là-bas. Et le Maroc, du coup, moi, je te disais que moi, parisien, je retrouve tout mon confort culturel, intellectuel, etc. là-bas. Parce que vraiment, t'es nourri, il y a à boire et à manger. Et ouais, du coup, je découvre plein d'événements à la fois culturels. À Marrakech, c'est là où il y a la 154, la 154, la première foire d'art contemporain africain qui se passe à Marrakech, New York et Londres, qui est un rendez-vous international et aussi un rendez-vous africain. T'as le festival du livre africain où t'as tous les intellectuels africains et de la diaspora africaine qui se réunissent à Marrakech pour débattre sur plein de questions qui sont en lien avec l'Afrique. Et en fait, c'est un Maroc culturel, un Maroc intellectuel auquel on pense pas. Oui. Et par exemple, voilà, je viens de me rappeler pourquoi t'as fait allusion à la danse. Si par exemple je vous dis quand vous pensez à un Marocain, vous pensez à quoi? Et bah, je pense que la première image qui vous vient en tête, ça sera jamais l'image d'un jeune comme moi, d'un jeune comme moi, mais du coup qui est né au Maroc, qui adore la musique contemporaine et qui danse sur de la musique contemporaine, qui se dandine à faire des petits mouvements bizarres, etc., etc. Parce qu'on c'est pas dans les perceptions qu'on a du pays. Alors que pourtant, là-bas, c'est hyper banal, quoi. Enfin, c'est comme à Paris, évidemment, qu'on a de la danse contemporaine. Et ouais, parfois on a des a priori qui sont lunaires par rapport à la simple réalité du pays et à sa richesse, à son actualité, quoi.
Ouais, on réduit à la danse des épaules et du ventre, et puis et au couscous et au chameau, comme tu as dit.
Exactement, ou au bled.
Ou au bled,
tu vois, une image dépassée. Alors que le Maroc d'aujourd'hui, mais... C'est un spectacle, c'est un Maroc qui t'apprend des choses.
Si tu devais choisir un événement marquant de cette quête d'identité marocaine depuis les quelques mois là, que tu as passé au Maroc, est-ce qu'il y en a un qui te revient positif ou pas?
Ah oui, évidemment. Sur ma quête d'identité, Moi, l'une des motivations principales pour venir au Maroc, c'était apprendre la langue. Et l'événement marquant, ça a été quand j'ai écrit ma première phrase en Darija. Parce que du coup, il y a l'arabe, et pour ceux qui ne savent pas, il y a l'arabe qui est... Parce que vous imaginez avec les j'allais dire les hiéroglyphes, mais...
L'alphabet, tout simplement.
L'alphabet arabe. Mais au Maroc, en fait, on parle plus Darija que arabe.
Darija, en fait, c'est le dialecte du Maroc s'articule sur la base de l'arabe. Mm-hmm. Donc, c'est les mêmes mots, mais parfois, c'est l'accent qui est différent ou les racines qui sont différentes, enfin, le suffixe ou le préfixe. Donc, c'est compliqué, par exemple, pour un Dubaïote ou un Saoudien de comprendre le Marocain. En revanche, le contraire, c'est possible. Au Maroc, tout le monde comprend l'arabe littéraire.
Voilà.
Et on appelle ça Darija.
Exactement. Et le Darija, ça s'écrit avec l'alphabet latin. Et en fait, bah voilà le.
Alors ça, c'est récent.
C'est récent.
Ouais, parce que je pense que c'est l'effet portable, mm-hmm. l'effet texto, ah oui, l'effet instantanéité, tu vois, d'aller vite, etc. Et c'est cette nouvelle génération qui a. Et moi, je suis un peu contre. C'est mon humble avis, parce qu'on perd justement de la de l'apprentissage et de la maîtrise de la langue arabe à l'écrit. Et pardon, je t'ai coupé.
Non, mais c'est hyper intéressant.
Ouais, je pense qu'il y a 20 ans. Les Marocains ne s'exprimaient pas à l'écrit avec l'alphabet latin. Ne s'exprimaient pas en arabe avec l'alphabet latin. Ça, c'est vraiment venu avec
les claviers,
Internet, les claviers. Et, ouais.
Totalement.
Et les WhatsApp surtout.
Et du coup, mon événement vraiment profondément marquant, ça a été quand j'ai réussi à écrire ma première phrase en arabe.
Et, bah...
et tu vois, c'était la prof qui avait dit, ouais, bah, ça faisait un petit moment que je prenais des cours d'arabe et que je sentais que je m'améliorais, mais voilà, timidement, etc. Et à un moment, la prof, elle dit, bon, bah voilà, vous me traduisez cette phrase-là en autonomie. Et elle était écrite en français. Et moi, je devais l'écrire en arabe. Et en fait, bah, j'avais pas de difficulté. C'est-à-dire que je mettais les mots les uns après les autres. Et j'étais en train de le faire, tu vois. C'était moi, ma main, mon stylo. Et c'était mais un moment spécial.
Et bah...
Parce que je me disais, mais c'est bon, là, je suis en train d'enlever les barrières que j'ai et je connais ma langue. Et ça, c'était un moment vraiment particulier.
C'est beau. Et comment t'expliques que tu ne maîtrisais pas l'arabe alors que ton père est marocain et parle arabe couramment et le comprend ou à minima le comprendre?
Alors, bah moi, du coup, ma mère est française, mon père est marocain, et donc à la maison, on n'a pas parlé arabe, sauf quand on se prenait des coups de pression, évidemment. Mais d'ailleurs, j'ai même oublié les expressions que mon père nous disait pour nous mettre des coups de pression. Mais en fait, mon père, je l'ai toujours entendu parler arabe. Je l'ai toujours entendu parler arabe avec quand il y a la famille qui vient à la maison, etc., quand on va au Maroc, etc. Mais en fait, quand t'entends... En fait, pour moi, c'était du bruit, tu vois. Je connais pas les mots.
Ouais.
Donc en fait, pour moi, c'est une suite de bruits et j'arrive même pas à distinguer les mots les uns des autres en fait. Et en fait, quand il n'y a pas eu cet enseignement qui a été donné à l'enfant, bah t'es comme dans t'es face à un puzzle, mais tu sais même pas où
c'est
sont
comme
les.
S'il parlait chinois quoi.
Exactement, ouais. Exactement. Et du coup, bah ça m'a donné des bonnes bases. Bon, déjà, moi, j'ai la chance, par exemple, d'avoir l'accent. Même si des fois ça donne des scènes très marrantes avec mon accent parce que l'arabe c'est quand même une langue difficile à apprendre, ouais. Surtout avec l'accent. Et en plus, quand tu es d'origine maghrébine, tu as le complexe de mal parler ta langue.
Ouais.
Et moi j'ai la chance d'avoir l'accent, mais par exemple, ma grande sœur elle l'a pas. Et je sais que bah, on n'aime pas parler arabe quand on est dans la même salle, tu vois, parce qu'il y aura trop de jugement. En tout cas, on va se sentir trop jugé.
Ouais, et tu sais quoi, Sinan, ça c'est aussi comment dire, c'est aussi le cas pour toutes les langues. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais moi au collège, quand quelqu'un prenait la parole en anglais ou en espagnol, tout le monde se foutait de sa gueule. Je pense que c'est quelque chose de très franco-français de pas assumer son accent quand on parle une langue étrangère. Donc, c'est le cas aussi pour l'arabe, j'imagine.
Ouais, c'est le cas. Enfin, oui, c'est le cas pour l'arabe parce que évidemment, quand quelqu'un a un accent marrant, bah c'est drôle de rire. Sauf que quand tu parles ta langue d'origine, là, c'est pas une question de grammaire ou quoi. C'est une question d'identité. Et en fait, mal prononcer, mal parler sa langue d'origine, tu te sens étranger, encore plus étranger. Et moi, un exemple tout con. Moi, mon cousin, il s'appelle Fathay.
Ouais, déjà.
Si tu n'as pas l'accent arabe, va prononcer Fethay. Mais c'est moi, je te le dis, Fethay, là. Mais tu sais pas combien de fois je me suis entraîné dans ma salle de bain, tout seul. Fethay, Fethay. Et il y a mon père qui l'appelle Fethay. Moi, je l'appelle Fethay. Ma mère, elle ne l'appelle pas. Et ma petite sœur, elle l'appelle Fatri.
Ah oui.
Parce que tu ne peux pas. C'est Fethay.
Fethay.
Que tous les auditeurs non arabophones essayent. Dites Fethay et partagez-nous si vous avez réussi à le faire. Mais c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et même anecdote très drôle. Atay bin Nana, qui veut dire thé à la menthe. Mais la dernière fois, ma tante française était venue au Maroc. Elle a demandé Atay banana. Banana. Et je te jure, ça c'était l'anecdote d'une autre amie. On lui a servi un jus de banane.
Aïe, aïe, aïe.
Alors qu'elle a demandé Atay à la menthe, tu vois.
Mais du coup, c'est quoi, hormis avoir un accent ou pas, c'est quoi être marocain?
Alors, moi, je pense que être marocain, comme être de toute autre nationalité, c'est d'abord un sentiment, une intention, une volonté de s'inscrire dans la vie d'un pays, parce que ce pays te parle, parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes pour différentes raisons, etc., etc. Et voilà, du coup. Premièrement, ça part d'un sentiment de pourquoi tu veux être marocain et après, bah, la volonté de te rapprocher de ce pays là ou non, tu vois. Et moi, tu vois, en l'occurrence, j'habite au Maroc. Là, je pars dans une réflexion, je ne sais même pas si...
Vas-y, on attend, t'inquiète.
Je ne sais même pas si je vais réussir à suivre le fil.
T'as intérêt.
Mais tu vois, par exemple, là, j'habite au Maroc et avant, j'étais français d'origine marocaine. Maintenant, je suis franco-marocain. Mais pour autant, même si bah, je n'étais pas parti habiter au Maroc, bah, je serais toujours marocain. Et en fait, tu vois, être d'un pays, être de son pays d'origine, il ne faut pas forcément prouver que oui, tu as ton lien avec le pays, tu vois. Moi, j'aurais été le même si je ne vivais pas au Maroc.
Non, je comprends.
Voilà,
c'est clair. Mais du coup, ça s'applique de l'autre côté aussi. Toi qui es franco-marocain pour le coup, donc ta mère qui est française de pure souche, j'aime pas dire ça, mais c'est le cas, et ton père marocain, tu te sens plus français, plus marocain ou c'est... Désolé de poser cette question
non, mais
à la BFM, mais tu vois, ça m'intéresse malgré tout.
Okay. Question à la BFM. Non, mais moi tu vois, bah là, actuellement, j'habite au Maroc. En fait, tu vois, je suis profondément français et je suis de plus en plus profondément marocain. Je dis de plus en plus parce que je suis toujours en construction de ma marocanité. Tu vois, ça fait que 6 mois que j'habite. Certes, ça fait 23 ans que j'y vais, mais ça fait 6 mois que j'habite. Et aujourd'hui, j'ai aucun doute sur ma marocanité parce qu'avant, je pouvais en douter. Enfin, en douter, c'est-à-dire ne pas me sentir légitime.
Légitime, ouais.
Exactement. Alors que là, j'ai plus aucun souci avec ma légitimité, mais ma marocanité, elle est toujours en construction. Mais aujourd'hui, moi qui habite au Maroc, moi qui m'émerveille chaque jour devant le Maroc, je suis profondément marocain. Et est-ce que je suis plus nain que l'autre? Bah, je pense que naturellement, je dirais que je suis encore plus français parce que bah voilà, j'ai grandi 23 ans dans un pays, la France. Donc en fait, mon système culturel, il est français.
Oui.
Et comme j'aime les deux pays, bah, je suis franco-marocain et avec toujours une influence française qui est un peu plus dominante. Mais peut-être qu'au fil des années, mon côté marocain, il deviendra dominant.
Okay.
Donc tu vois, c'est pas une question d'être l'un ou l'autre. Je suis les deux et de temps à autre, je suis plus l'un que l'autre. Et là, en l'occurrence, bah, c'est vrai que mon côté français, il est un peu en passif et mon côté marocain, bah, il est toujours en croissance.
Ouais.
Et justement, j'apprends à penser à la marocaine, à réfléchir à la marocaine, à pas me bloquer sur mes attentes de français au Maroc, parce que t'es pas en France, en fait.
Ouais. Et avec tout ce qui se passe actuellement, donc là, on va rentrer un peu dans la partie clivante de burn-out, mais ça aussi, ça m'intéresse. Burn-out, c'est un podcast qui met en lumière la diversité en France. Pourquoi ? Parce que on associe souvent, systématiquement, surtout en ce moment, la diversité, les minorités, à quelque chose de négatif. Je ne vais pas développer, on ne va pas rentrer dans les détails, tout le monde sait de quoi je parle. Est-ce que tu ressens, ou tu as ressenti, dans ta quête d'identité, dans les quelques mois que tu as passé au Maroc, la même chose de la part des Marocains, envers toi ?
Magnifique question. Je pensais pas qu'elle allait aboutir là-dessus, mais magnifique question.
Merci.
Ça a été un des éléments les plus motivants de mon retour aux sources, enfin, qui m'a le plus animé dans mon retour aux sources et dans la reconnaissance de ma légitimité à être marocain. C'est que quand je suis arrivé au Maroc, limite, c'était les Marocains qui étaient plus convaincus que moi que j'étais marocain. Tu vois, ça me criait à la gueule que j'étais marocain. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est ce côté-là où moi, français, parce que pour eux, certes, je suis franco-marocain, mais j'arrive, je suis français. Et en fait, le fait qu'ils m'acceptent directement dans la team Maroc, bah, j'étais en mode, bah, ouais, c'est cool, merci. Merci, tu vois, ça me fait plaisir. Je veux être marocain, je suis marocain. Et ils me disaient, t'es marocain. Et du coup, non, du côté marocain, face au MRE, marocain résident à l'étranger, face à la diaspora marocaine, il y a ce sentiment de fratrie, en fait. T'es marocain d'où tu veux, mais t'es marocain. Et c'est ça que j'adore. Et même là, récemment, je viens de faire une discussion parce que je vois que, tu vois, comme toi, tu disais que burnout s'était écouté au Canada, Belgique, etc. Ouais. Mais moi, depuis peu, j'ai vu que j'étais suivi par des Marocains, des Canadiens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que des Canadiens ils foutent sur mon compte francophone, tu vois? Et en fait, bah, c'était les Québécois du Maroc, c'est les Québécois qui sont d'origine marocaine, ouais. Ou peut-être les anglophones aussi. Mais en tout cas, voilà, toute cette diaspora, elle est aimée au Maroc. Et la preuve, bah, c'est l'équipe nationale de football marocaine, Brahim Diaz, espagnol marocain, voilà, Hakimi, espagnol marocain, et combien de Français marocains, Sofiane Boufal, dans l'équipe, tu vois? Donc, les Marocains accueillent à bras ouverts les Marocains.
Je suis ravi de l'entendre, en tout cas.
Et aussi, c'est une question de avec quelle mentalité t'arrives, tu vois. Parce que certes, c'est ton pays d'origine, mais il y a aussi ce petit côté où toi, l'Européen, certes, franco-africain, quand tu reviens au pays, dans quelle mentalité tu y vas, tu vois. Qu'est-ce que t'as apporté à ton pays d'origine?
Oui.
Et tu vois, et quand t'es dans une bonne mentalité, bonne motivation, et pas que tu vois le Maroc comme le bled ou comme un lieu où tu peux dépenser ta thune parce que t'es plus riche grâce à ton niveau de vie.
Ou faire le kéké.
Exactement, faire le kéké. À Marrakech, on en voit beaucoup, tu vois. Ouais. Et là, t'es accueilli comme un Marocain.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres personnes métisses ou hybrides, je ne sais pas comment dire, qui sont un peu en quête d'identité, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être des personnes bah, comme moi, par exemple, tu vois, 100% de la même origine. Tu leur donnerais quoi comme conseil si jamais ces personnes étaient en quête d'identité?
Moi, l'une des questions que je me suis toujours posée à laquelle j'ai toujours été confronté en fait, pendant toute ma vie, c'est est-ce que je suis légitime à être marocain, tu vois? Et en fait, moi, tu vois, en plus, je suis blanc de peau. Donc, ce qui fait que quand je suis au Maroc, j'avais l'impression que je ressens même pas un Marocain, tu vois. Donc, j'ai pas la langue, j'ai pas le physique. Maintenant que j'y habite, je vois que des physiques comme moi et des 100% Marocains, mais il y en a à l'appel. Donc, et en fait, le conseil de ça, c'est que moi, alors que j'ai toujours été, on va dire, rejeté de mon identité parce que jamais on me présuppose Marocain ou Arabe, et j'ai fini par comprendre que peu importe ce que la manière dont les gens peuvent me percevoir, ça ne va jamais changer qui je suis. Et du coup, certes, en France, je dis « ouais, je suis marocain », il me dit « ah ouais, t'es marocain, toi ?»
Ouais.
C'est blessant parce que, encore une fois, hop là, tu te prends t'es encore repoussé de ton identité. Mais en fait, il faut accepter qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons décider qui on est. Et si moi, franco-marocain, je n'ai pas envie d'être marocain, je n'ai pas à me forcer d'être marocain. Si je suis bien avec ma mentalité uniquement française.
Je suis d'accord avec toi, Sinan, j'apporterai de la nuance. Parce que ce que tu dis, il faut avoir beaucoup de résilience pour pouvoir l'assumer, entre guillemets. Si tous les jours, on te pointe du doigt et on te fait,
ressentir comme différent.
On te ressentir comme non français ou non marocain, au bout d'un moment, tu doutes. On en parle souvent dans les différents épisodes de Burnout, mais derrière, ouais, je pense qu'il faut être vraiment fort psychologiquement pour passer outre. Enfin, t'imagines si tous les jours tu allumes la télé et dans les médias on critique tes origines, ta religion, ta couleur de peau, mm-hmm. tes cheveux. On mm-hmm. en a parlé avec Rokhaya Diallo et la charge raciale. Uh-huh. C'est, tu vois, il y a cette forme de résilience uh-huh. qu'il faut avoir et tout le monde ne l'a pas, malheureusement.
Uh-huh. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, là, comme tu le dis, ça me fait réaliser que moi, j'ai du coup la problématique dans le sens inverse. C'était mon côté marocain qu'on ne reconnaissait pas. Ouais. Mais par exemple, quand tu es plus typé, moi, avant de partir au Maroc, en fait, j'ai jamais été confronté au racisme. Peut-être avec mon prénom sur un CV, peut-être que là, peut-être, mais frontalement, jamais. Okay. Un peu avant de partir au Maroc, j'avais un t-shirt qui avait marqué Barbès et Lévis en arabe. Donc, et avec mes cheveux, du coup, là, tu pouvais m'identifier comme arabe. Et en fait, il y avait un mec raciste, un raciste comme ça. On était en soirée et un jour, il vient vers moi et me dit « Ouais, du coup, les Français comme toi, non. » Moi, j'étais « C'est quoi les Français comme moi ?» Il m'a dit « Tu viens d'où ?» Je dis « Je viens du 14e arrondissement. » « Non, mais tu viens d'où ?» Et moi, c'était la première fois qu'on me posait ces questions. Et alors que moi, j'ai aucun doute sur ma francité, j'ai pas de doute là-dessus. Mmh. Et bah, je me suis senti un peu désenraciné par un bouffon qui me disait les Français comme toi, qui me faisait sentir un peu différent. Et alors que moi, je suis profondément et que j'ai jamais été confronté au racisme. Ouais. Et c'est vrai où là, je me suis dit, ah ouais, bah alors pour les milliers de gens qui sont comme moi d'origine maghrébine, mais qui sont plus typés, bah ouais, finalement, ça peut être une claque qui est plus forte. Et ouais, là, du coup, qui peut faire douter. Du coup, t'as très bien fait d'ajouter ta nuance parce que c'est vrai qu'elles dépendent des problématiques de chacun. Ouais. Mais moi, le mec qui m'a dit ça, c'était un gros bouffon. Et les gens qui peuvent penser des choses, enfin chercher à déraciner les gens ou à les projeter dans leur identité autre que française quand ils sont français, faut regarder le profil, tu vois, qui sont ces gens, tu vois. Est-ce que c'est des gens qui ont des choses à apporter à la société? Est-ce que c'est des gens intelligents? Enfin, est-ce que, et même ils s'amusent à dire que l'équipe de France n'est pas française? Oui. Parce que enlevez-nous ces Français-là, on n'est pas champion du monde, en fait.
Ouais, il faut avoir du recul, quoi. Si on revient sur ta quête d'identité, ouais. Là, t'en es où au niveau du téléchargement, la barre de pourcentage?
Au niveau de ma quête d'identité, c'est une question... parce que ma quête d'identité, elle, tu vois, moi, à la base, j'étais parti pour rester un an au Maroc. Ouais. Mais c'est pas au bout d'un an que ça y est, c'est bon, je serai marocain... plus aucun souci dans ma life, c'est bon, franco-marocain, hop là, basta, je peux continuer ma life. L'identité, elle est toujours en éternelle construction et en éternelle variation. Et là, moi, sur mon chemin, je suis pas en termes de pourcent, mais en termes de bonheur, je suis très heureux. Parce que déjà, nouer ma relation avec mon pays d'origine, c'est un besoin pour m'accomplir personnellement. Et en fait, là, par exemple, avec la langue, je vois que je m'améliore bien. Qu'en cours je suis vraiment que je comprends beaucoup plus facilement, que j'arrive à écrire, etc. Et en fait ça me remplit déjà sur une échelle de pourcentage en bonheur, pas en réelle parole, je suis hyper heureux, je suis heureux à 50%. Et après quoi, il me reste tellement de chemin à faire que
tu ne vas pas revenir maintenant, quoi.
Ah non, clairement pas. Et même, à la base, j'étais parti pour une année sabbatique. Tu finis les études, tu vas kiffer ta vie un an, tu reviens. Je crois que l'année sabbatique, elle va durer plus longtemps, tu vois.
C'est positif, du coup.
Et aussi, quelque chose, c'est que là, je suis au Maroc. Mais comme je t'ai dit, moi aussi, j'ai de la famille en Algérie. Ma grand-mère est en Algérie. Et moi, ma quête identitaire, plus tard, elle va continuer là-dessus. Là, je suis le petit Marocain. Je suis en train de plonger dans mon pays d'origine. Et après, plus tard, je traverserai la frontière et je continuerai à écrire mon histoire avec l'Algérie. Et là aussi, ça va être des sujets qui sont profondément intéressants, à la fois sur les relations Maroc-Algérie, Algérie-France et le trio Algérie-Maroc-France. Et en fait, ça va être une éternelle quête. Et même, pourquoi pas plus tard, au lieu de revenir en Europe pour je ne sais quoi, continuer à explorer l'Afrique, en fait. J'ai la chance de venir de ce continent-là. Pourquoi pas aller au Sénégal? Ça, c'est un pays qui fait rêver aussi.
Ouais. Tu parlais d'écriture, mais c'est au sens figuré. Est-ce que toi, tu as pour projet d'écrire un livre ou de faire un documentaire justement sur ton histoire ou sur cette quête d'identité. Est-ce que tu as réfléchi à un format en particulier ou pas ?
Alors, est-ce que c'est des idées qui me sont passées par la tête ? Bah, on va dire que documenter ma vie, je le fais déjà un peu par le biais des réseaux sociaux.
Après, une story, c'est 24 heures, tu vois. Est-ce que tu n'as pas un truc où tu souhaites garder, documenter tout ça de manière pérenne ?
Ouais, totalement. Totalement. Enfin, j'ai pas eu cette idée. Genre, je me suis pas dit, je vais écrire un livre.
Juste pour les auditeurs, il m'a regardé avec le regard vide, en mode, elle est conne ta question.
Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est un regard en mode, je réfléchissais pour nourrir. Non, ce n'est pas du tout une question conne. Et même, je pense que c'est sûr que je déclinerai mes propos sur un support qui sera plus, on va dire. Comme un livre, comme un film, etc. etc. Parce que j'ai des choses à raconter, en fait. Parce que cette histoire, elle est magnifique. Cette histoire, elle a un million de chapitres. Et je pense que facilement... Là tu vois, ça fait que 6 mois que je suis au Maroc, etc. Mais c'est sûr que ça va être décliné par je ne sais quel moyen, mais ça le sera.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sinan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu sais, il y a une nouvelle rubrique. Elle n'est pas si nouvelle que ça, ça fait un moment. La question sous le tarbouche. Non, en fait, il me faut un jingle. Tu sais, je vais t'expliquer le concept. C'est simple, il y a une question sous le tarbouche. La question a été posée soit par un membre de ta famille, soit par un follower, soit par un auditeur, soit par un pote, soit par une ex, bref, soit par un hater. Alors, si tu soulèves le tarbouche, le chapeau, t'as pas le choix, tu dois lire la question et y répondre. En revanche, tu as le droit de refuser de soulever le tarbouche.
Ça marche. Donc, juste pour le tarbouche, j'ai envie de le soulever, mais vas-y, on va voir. J'avoue, j'appréhende un peu.
Et tu dois lire la question à haute voix, s'il te plaît.
Ça marche.
Il est en panique.
Alors, j'ai essayé d'analyser un peu avant pour être sûr que c'est pas une dinguerie ou quoi. J'ai même pas réussi à lire. Dis-nous la vérité. Tu soutiens quelle équipe à la demi-finale de la dernière Coupe du Monde, France-Maroc? Bon, bah ça, c'est une question qui va m'attirer des foudres. Moi, à l'époque de la Coupe du Monde 2022, demi-finale France-Maroc, je soutenais plus le Maroc. La France.
Lapsus mytho. Toute l'équipe, elle est morte de rire derrière.
Je soutenais de plus la France, justement, c'est ça qui peut être un sujet explosif. Parce que on a une trop belle équipe de France, en fait. On a une trop belle équipe de France, je suis franco-marocain.
Mais attends, je vais couper au montage, ça vient de tout discréditer ce que tu as dit depuis.
Non, pas du tout.
Non, je plaisante, je rigole.
Mais tu vois, et même, je ne sais même pas si à l'époque je pensais déjà partir au Maroc, tu vois. Mais quand je dis que j'étais plus pour la France, enfin, c'était un dilemme. C'était pas juste, évidemment, je suis pour la France. Et moi, on va dire que j'étais 55% France et 45% Maroc. Mais ce qui m'a pas empêché, le jour J, de venir avec mon maillot du Maroc et mon drapeau de la France. Mais donc, c'était un dilemme.
Au moins, c'est honnête. J'apprécie ta réponse.
C'est ça. Et j'ai fait travailler la raison et le cœur. C'est-à-dire, d'un côté, le Maroc qui fait un parcours historique, qui met des étoiles dans les yeux, qui fait briller à chaque match, etc., etc. Et de l'autre côté, la France, elle repart sur une autre Coupe du Monde. Je vais peut-être vivre une autre Coupe du Monde pour mon pays. Donc, tu vois, c'était vraiment le cœur et la raison. Et j'avoue que c'était trop difficile à trancher. Donc, j'étais 55-45.
Merci d'avoir répondu, Sinan. Je te souhaite d'aboutir à ta quête. Et j'espère que tu auras, à travers Burnout, aidé certaines personnes qui sont également en quête de quoi que ce soit. Et je te dis à très bientôt, j'espère. Est-ce que tu as apprécié ce moment d'échange?
J'ai adoré. Franchement, c'est un plaisir, un honneur. Et un bel accomplissement personnel, le fait que tu sois passé derrière la caméra et maintenant derrière le micro.
Bah, c'est top ça. Et je remercie également la marque de prêt-à-porter, Lyoum, qui partage les mêmes valeurs que Burnout. Je vous invite vraiment à aller sur leur site internet ou leur page Insta. Leurs produits sont de qualité pour hommes, pour femmes. Je porte leur nouvelle collection. C'est doux, c'est... vraiment, allez-y. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Burnout. Ciao.